Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un son. Un son qui raconte des siècles d'histoire. Des pâturages de l'Aubrac jusqu'au parquet de Bâle parisien.
La Cabrette.
Exactement, la Cabrette. Et pour nous guider, on a un document assez exceptionnel, je dois dire.
Oui, le bulletin numéro 75 du Cartoclub à Vérona.
C'est une vraie mine d'or.
Une mine d'or, c'est le mot.
C'est un article hyper documenté, superbement illustré, signé Yves Casjouan.
Et il faut vraiment saluer la mise en page de Guy Mazars, le rédacteur en chef. Ça transforme la lecture en un vrai voyage visuel, c'est ça qui est fort.
Absolument. Alors, notre but, c'est de comprendre comment cet instrument, qu'on voit souvent comme juste folklorique, a pu traverser les époques et se réinventer sans cesse.
C'est la grande question. Et l'approche par les cartes postales, qui est au centre du document, elle est géniale pour ça.
Ah oui ?
Oui, parce que ce ne sont pas juste de vieilles photos, quoi. Ce sont des fenêtres sur des instants de vie. Des preuves, presque. On y voit les musiciens, bien sûr, mais aussi les modes, l'ambiance. C'est vivant.
Alors, commençons par la base. La Cabrette, qu'est-ce que c'est, précisément ? Je sais que c'est une cornemuse, mais c'est une famille immense, non ?
Immense, oui. On compte plus de 150 types de cornemuses dans le monde. La Cabrette, c'est une des branches de cet arbre.
Et ses origines, elles sont floues, j'imagine.
Très floues, parce que les premiers instruments étaient faits avec des matériaux qui ne durent pas. Des peaux de chèvre, des tuyaux en roseau. Tout ça disparaît.
Donc pas de Cabrette des cavernes à mettre dans un musée. Comment on remonte le fil, alors ?
Grâce aux textes anciens. On sait qu'elle existait chez les Grecs et les Romains. Ils appelaient ça l'utriculus, la petite outre.
D'accord.
Mais c'est surtout une anecdote rapportée par l'historien Suétone, qui est assez savoureuse.
Ça veut dire qu'on a des noms, des joueurs de cornemuse de l'époque romaine.
Des stars. On en a au moins un. Et pas n'importe lequel. L'empereur Néron.
Néron. Sérieusement?
Lui-même. Apparemment, il en jouait et il aurait même promis de célébrer une victoire militaire en jouant en public.
C'est une image complètement folle. L'empereur tyran qui joue de la cornemuse. Ça change la perspective.
Ça change tout. Et à défaut d'instruments, c'est l'art qui prend le relais. L'iconographie, les images, c'est essentiel.
Comme chez Bruegel, par exemple.
Exactement. Dans Le repas de noces ou chez Albrecht Dürer. Et même ici, en Aveyron, on a des traces bien avant les photos.
Ah oui ? Où ça ?
Sur un vitrail du 15e siècle à Villefranche de Rouergue et même une sculpture du 16e sur la cathédrale de Rodez. On y voit des joueurs de Cabrette.
Fascinant. Elle était déjà là, gravée dans la pierre. Mais j'ai toujours eu une image un peu double de la cornemuse. C'est pastoral, mais il y a un côté un peu sauvage, presque païen.
Vous mettez le doigt sur une tension intéressante. Le document le montre bien. D'un côté, on l'associe au diable, au fait un peu débridé.
Oui.
Et de l'autre, dans l'imagerie religieuse, ce sont les anges qui en jouent. Elle est sacrée et profane à la fois.
Cette ambivalence est partout, en fait.
Oui, et une vieille légende locale l'illustre parfaitement.
Ah, j'adore les légendes. Racontez.
C'est un cabrettaire qui rentre d'un bal, tard dans la nuit. Un loup le suit, menaçant. Le musicien a peur, il lui jette un bout de fouasse.
Et ça ne suffit pas, j'imagine.
Non. Alors, dans un réflexe, il se met à jouer de sa cabrette. Et là, au son de l'instrument, le loup s'arrête, hésite et finit par s'enfuir. Le son devient une sorte de bouclier.
C'est une image puissante. La musique qui repousse le danger. Mais l'instrument en lui-même, est-ce qu'il a beaucoup changé en cours de temps ?
Oui, et c'est un point crucial. Il y a eu une vraie révolution technique. On est passé de la cabrette à bouche.
Où il faut souffler en permanence, c'est ça ?
Voilà, c'est très physique. On est passé de ça à la cabrette à souffler. C'est le bras qui actionne un soufflet et qui remplace les poumons.
Et ça, on le sait grâce aux fameuses cartes postales, j'imagine.
Exactement, ce sont nos témoins. On a une photo d'Aubrac en 1892. On y voit un certain M. Villaret qui joue d'une cabrette à bouche, très clairement.
D'accord.
6 ans plus tard, en 98, une autre photo, même endroit, même type d'instrument. Ces clichés, en fait, ils capturent une pratique qui est sur le point de disparaître.
Donc, à la fin du 19e, c'est encore la norme. Mais d'où vient cette idée du soufflet ? C'est une invention locale ?
Alors ça, c'est un exemple génial de recyclage culturel, on pourrait dire.
C'est-à-dire ?
Les artisans ont tout simplement adapté des éléments d'un autre instrument. La musette de cour, la version aristo de la cornemuse en quelque sorte.
C'est ça.
Très à la mode à Versailles, faite en ivoire, en soie, Quand elle est passée de mode, la musique populaire a récupéré sa technologie, notamment le soufflet.
Une technologie d'élite récupérée par le peuple, c'est une belle histoire. Et est-ce que la cabrette à bouche disparaît complètement du coup?
Presque. Mais le bulletin nous montre une carte postale étonnante de 1955. On y voit la famille de musiciens, Portal, et le jeune Olivier Portal joue d'une cabrette à bouche.
Plus d'un demi-siècle plus tard, c'est un beau clin d'œil.
Un geste de transmission, oui.
Toute cette histoire, pour l'instant, se passe en Aveyron. C'est un instrument de son terroir. Alors, comment la cabrette devient-elle un des sons de Paris?
Par l'une des plus grandes migrations de l'histoire de France. Au milieu du 19e, la misère pousse des milliers de gens du Massif central à monter à Paris.
Les Auvergnats, comme on les appelait.
Voilà, même s'ils venaient de l'Aveyron ou de la Lozère. Et dans leur bagage, ils amènent leur culture, leur danse et leur musique.
Et là, j'imagine que des figures émergent, des stars de la cabrette parisienne.
Absolument. Le document en met deux en avant qui sont de vrais personnages de romans. Le premier, c'est Antoine Bouscatel.
Le nom me dit quelque chose.
On le surnommait le roi des cabrettaires, rien que ça. Il arrive à Paris comme ouvrier, mais son talent est tel qu'il finit par devenir musicien pro et même patron de son propre bal, rue de Lappe.
Une vraie success story. Et le deuxième?
Martin Caylla, un profil plus entrepreneur, il a compris qu'il y avait un marché énorme avec ses émigrés nostalgiques.
Il a monté un business en gros.
Exactement. Il a créé sa propre maison de disques, Le Soleil. Il a enregistré plus de 200 disques, 78 tours. Et il s'est forgé une image, toujours avec son grand chapeau, son foulard rouge. Il avait tout compris au marketing, avant l'heure. Donc on a cette scène auvergnate qui est très vivante à Paris. Mais le grand tournant, c'est la rencontre avec d'autres immigrés, c'est bien ça.
Les Italiens.
C'est le choc des cultures qui va créer l'étincelle. Les Italiens, eux, ils arrivent avec leur instrument, l'accordéon chromatique. Et au début, ça cohabite pas trop, j'imagine.
Au début, c'est la rivalité. Et puis, l'alliance se fait. Et c'est la naissance du bal musette. D'ailleurs, cette alliance est symbolisée par une anecdote presque shakespearienne.
Ah oui, Antoine Bouscatel, le roi de la cabrette, s'associe avec un accordéoniste italien, Félix Peguri. Et pour sceller leur union, leurs enfants se marient. L'auteur de l'article les appelle avec beaucoup d'esprit Roméo Peguri et Juliette Bouscatel.
Les Capulet et les Montaigu du folklore, c'est excellent. Mais dans ce mariage, j'ai l'impression qu'il y en a un qui va prendre le dessus. L'accordéon est tellement plus puissant.
Vous avez mis le doigt sur le grand paradoxe. L'accordéon, plus moderne, plus polyvalent, va progressivement tout écraser.
C'est le début de la fin pour la cabrette, en fait.
Exactement, elle va être éclipsée. Mais ce qui est fascinant, c'est que le nom, lui, va rester. On va continuer pendant des décennies à aller au bal musette, alors que la musette, l'instrument, n'y est plus.
Le nom est devenu une marque déconnectée de son origine. Après cet âge d'or, j'imagine une longue traversée du désert pour l'instrument.
C'est le creux de la vague. Dans les années 50, 60, avec le rock, le rock'n'roll, la cabrette devient l'incarnation du ringard, le son d'un monde dépassé.
C'est brutal.
Le document raconte même qu'un musicien s'est fait poliment demander d'arrêter d'aller faire son bruit ailleurs. L'ambiance avait changé.
Comment est-ce qu'on revient de ça? Comment une tradition peut survivre à un tel rejet?
Par un spectaculaire retour de balancier. Dans les années 70, c'est le grand mouvement folk.
La quête des racines, de l'authenticité. Voilà, on se met à rechercher ces musiques, non pas comme des objets de musée, mais comme une culture vivante. Et là commence un travail essentiel. Le collectage. Le collectage, c'est-à-dire?
Ça veut dire que des passionnés, des jeunes, prennent leur magnétophone et vont dans les campagnes enregistrer les derniers anciens joueurs, pour sauver de l'oubli tout un répertoire transmis uniquement par voie orale.
Une course contre la montre?
Totalement. Et il s'appuie sur une découverte faite 10 ans plus tôt par le CNRS. Une enquête sur l'Aubrac avait révélé une concentration exceptionnelle de musiciens là-bas. L'auteur parle d'un cluster de talents.
Donc l'instrument passe de ringard à objet d'étude, puis à trésor culturel.
Et ça va même plus loin. La reconnaissance devient internationale. En 1976, pour le bicentenaire américain, un cabrettaire et une chanteuse de l'Aveyron sont invités à représenter la France au festival du Smithsonian à Washington.
C'est prodigieux. On est à des années-lumière du bal où on leur demandait de se taire. Et aujourd'hui, cet élan est retombé ou elle est toujours vivante, la cabrette?
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est incroyablement vivante. Les chiffres de son dossier d'inscription au patrimoine immatériel le montrent.
Et ils disent quoi ces chiffres ?
Environ 1000 sonneurs, une quinzaine de fabricants, une vingtaine de profs, ce n'est pas du tout anecdotique.
Il y a une vraie communauté, une vraie transmission.
Oui, et il y a même un musée de la cabrette à Visine. Mais le plus important, c'est sa capacité à dialoguer avec aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
Des musiciens l'utilisent pour faire autre chose que du trad.
Exactement. Le document cite le groupe Super Parquet, par exemple. Eux, ils n'hésitent pas à la marier avec de la musique électronique, des sons psychédéliques.
Et ils l'emmènent complètement ailleurs.
Voilà. La tradition n'est pas un monument figé, c'est un matériau vivant.
Des anges sur les cathédrales, au club électro, quel parcours.
Et pour boucler la boucle, le bulletin se termine sur une image très forte, très contemporaine. Une photo prise à Millau pendant le confinement de 2020.
Ah oui, on y voit un musicien, François Bosque, qui chaque soir jouait de la cabrette en hommage aux soignants. Dans le silence de la ville, le son de la cabrette redevenait un lien social.
C'est une image magnifique. Alors, si on devait résumer ce voyage, la première chose est pour moi, c'est que la cabrette est tout sauf un instrument du passé. Son histoire, c'est celle d'une adaptation permanente.
C'est un marqueur identitaire, bien sûr, mais qui a su dépasser son propre folklore pour devenir une musique vivante, capable de trouver un écho dans chaque époque, y compris la nôtre.
Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée à emporter.
Oui. Comment un objet culturel si ancré dans un terroir, comme la cabrette, parvient non seulement à survivre à l'oubli, mais à trouver une nouvelle pertinence à chaque tournant de l'histoire.
Que ce soit dans l'effervescence du bal musette ou face à une crise mondiale.
Exactement. Qu'est-ce que cette incroyable capacité de résilience nous apprend sur la force de la culture populaire ?